Peut-être on peut commencer avec lecture, Genèse chapitre 46, et on va juste lire les premiers quelques versets. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait, il arriva à Beersheba, et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit, « Jacob, Jacob! » Israël répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. » Courbons-nous. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu as été avec Jacob, et on sait que tu es avec nous, et on sait que tu nous écoutes, et c'est une bénédiction de savoir que tu nous as aimés des fondations de ce monde, que tu as envoyé ton Fils mourir sur le croix pour nos péchés. Quel privilège qu'on a de te connaître, et d'approfondir notre connaissance en lisant ta parole, en réfléchissant et en mettant en pratique les vérités qui sont là. On demande ce matin que tu nous prépares pour ce passage. On demande ces choses par le nom de Jésus. Amen.
C'est 44 de même.
Pardon?
46.
Mais ça implique 44 et 45 et 46 et 47. C'est toute une histoire qui suit. Et on avait dit ça, c'était un peu comme un téléroman. On a chaque semaine un autre épisode. Hein? On aime ça.
On aime ça.
Question pour vous autres ce matin, et je sais déjà la réponse, mais je vous pose la question. Est-ce que vous aimez ça quand l'histoire finit bien? Moi, chez nous, mon père avait un restaurant qui aimait ça nous amener quand on était petits. Et sur le menu, il y avait plein de bonnes choses et on pouvait choisir ce qu'on voulait. Et à la fin, lors qu'on arrive dans les desserts, il y avait un dessert qui s'appelait The Happy Ending. OK? La fin joyeuse. Et puis tout ce que c'était un petit peu de crème glacée avec des bonbons. Et évidemment, comme enfant, on trouvait ça fantastique. Mais l'idée, c'est que on en a parlé souvent, et dans un sens, pas juste de nourriture ou de ce restaurant-là. Mais en général, la vie, là, on aime des choses qui terminent bien, n'est-ce pas? Quand on ouvre un livre, moi j'ai une très mauvaise habitude, mon épouse me chicane à chaque fois, on me donne un livre, je lis tout le temps le premier chapitre. L'auteur est capable d'aller chercher mon intérêt. Et ensuite, je lis tout le temps le dernier chapitre. Ça finit-tu bien? Ça finit pas bien, laisse faire. Je ne vais pas le lire. Il y a beaucoup de livres que j'ai jamais lus, simplement parce que j'ai vu le dernier chapitre, puis c'est pas un fin qui m'intéresse. Une des raisons pour lesquelles que je fais ça, c'est que j'ai pas de mémoire. Et moi, quand je lis la fin et je sais la fin, c'est pas grave, parce que dans un jour, deux jours, je vais avoir complètement oublié. Mais si je sais que c'est bien, ça vaut la peine de lire tous les chapitres entre les deux, je vais le faire.
C'est bon, Dan, parce que ça nous laisse nous appétit à la fin.
Et d'ailleurs, c'est ça c'est le problème, c'est que souvent quand on parle, la semaine passée, on a investi un peu de temps à parler de réconciliation, on comprend pas comment est-ce que ça peut bien terminer les choses. On pense tout le temps, je veux avoir la paix, alors je veux avoir la paix, je vais chercher la réconciliation avec quelqu'un avec qui j'ai fait de quoi qui l'a blessé, ou elle m'a fait quelque chose qui m'a blessé. Et c'est fun d'aller chercher la paix instantanément, d'aller chercher ça. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on se fait pas pardonner? On veut se faire pardonner, mais on n'est pas pardonné. Mais il y a quand même des bénédictions à aller rechercher la réconciliation, même si on ne l'atteint pas. Mais si on l'atteint, c'est un don joyeux. Mais ça porte des bénéfices à longue haleine. Incroyable comment est-ce qu'on va voir ça ce matin. Now, le contexte de passage qu'on a, Genèse 1 jusqu'à Genèse 50, c'est Moïse qui a préparé ça. On croit que Dieu l'a révélé à Moïse lorsqu'il était sur la montagne. Et Moïse l'a écrit, il a documenté les commencements, la Genèse, comment le monde s'est commencé, tout cet univers dans lequel que nous habitons. Toutes les origines sont ici dans Genèse. Et ensuite, on a toutes les origines de l'humanité, parce que pour nous, c'est bien beau le soleil, c'est bien beau les étoiles, c'est beau la forêt, les lacs, les montagnes, c'est tout beau, on aime tout ça. Mais la réalité, c'est que ce qui nous inquiète, c'est quoi? C'est nous-mêmes. On s'inquiète, comment ça se fait qu'on est rendu où ce qu'on est? Comment ça se fait qu'on est là? Un de mes enfants m'avait dit, comment est-ce que Dieu m'a mis dans cette famille si pauvre? Moi, je venais de lui dire que je ne lui donnais pas un auto lorsqu'il graduait le secondaire. Et il disait, on est une famille pauvre. J'ai dit, ouais, on est bien pauvre. Mais on veut savoir, comment ça se fait qu'on s'est rendu ici, là? Pourquoi est-ce que Dieu m'a placé, où est-ce que Dieu m'a placé, dans cet océan d'humanité? Tellement important à répondre à ces questions. Et Moïse répondait à ces questions. Et spécifiquement, depuis les derniers chapitres, on est en train de regarder comment est-ce que le peuple de Dieu se sont formés. On a lu l'histoire d'Abraham, on a lu l'histoire d'Isaac, on a lu l'histoire de Jacob, et on a vu comment est-ce que Dieu protégeait les descendants d'Abraham. Et là, on a vu l'explosion en passant, et 12 fils. Moi, j'en ai 3, et je trouve que j'en ai en masse. Imaginez-vous d'en avoir 4 fois plus que ça. Ça en a fait des fils. Beaucoup de chicanes chez nous, beaucoup d'énergie. Ça en dirait beaucoup de testostérone. Tu sais, ça se bouscule tout le temps, ça se brasse. Et la question, c'est que Moïse voulait donner cette information aux enfants d'Israël qui sont dans le désert. L'histoire que Moïse raconte, c'est arrivé à peu près 400 ans auparavant. C'est pas de nouveauté. Je vous explique comment les Côtes Noires sont arrivés au Québec dans les années 1700. C'est un peu à peu près la même histoire. On arrive avec quelque chose qui est loin, qu'on n'a pas beaucoup de détails, qu'on comprend pas nécessairement les circonstances. Mais Moïse prend le temps de tout expliquer ça. Et ce matin, on va regarder chapitre 46 et on va continuer jusqu'à la fin si possible. Et on va voir justement comment est-ce que Moïse a préparé le peuple dans le désert pour qu'ils puissent savoir d'où ils viennent. Et ça va leur aider à comprendre d'où ils vont. Now, on a vu la semaine passée le concept de réconciliation. On a terminé avec un simple sommaire de qu'est-ce que ça prend pour avoir la réconciliation. Et dans les 12 chapitres de la vie de Joseph, 12 chapitres, on a une histoire de Joseph, ses frères, et aussi Jacob. Et on a cette notion qu'on a besoin ici d'une famille qui est en difficulté. En anglais, on appelle ça « dysfunctional ». C'est une famille où ça marche mal. Entre les frères, beaucoup d'émotions. Et on a vu comment ils ont besoin de justement cette réconciliation entre Joseph et ses frères. On a vu que ça prend l'humilité de base, l'humilité. Dieu a humilié Joseph en l'envoyant en Égypte, en l'envoyant chez Potiphar comme esclave. Ensuite, en l'envoyant en prison. Dieu l'a humilié et je suis sûr que Joseph avait beaucoup de temps de penser à ses propres fautes. Pas juste les fautes de ses frères, mais de constater comment est-ce que lui a provoqué un peu avec toutes sortes de façons qu'il a agi avant. Et il peut reconnaître que ses frères ont mal agi envers lui. Et on a, je suis sûr, un sentiment de regret. Et on le voit ça à travers les frères, même quand ils arrivent en Égypte pour chercher la nourriture, et le fameux premier ministre d'Égypte leur fait passer des épreuves. Et eux autres, ils pensaient dans le concept karma. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, on a maltraité notre frère, voici maintenant nous qui vont être maltraités. Il y a cette notion de regret. Et on a eu même un exemple de ça où ce que Judas a même offert lui-même en échange pour la vie de Benjamin. Et on a vu comment est-ce qu'il y avait la repentance. Il tournait de bord, il pensait aux autres, il pensait plus à lui-même. Et on voit justement ce virage nécessaire. Repentance, regret, humilité et aussi pardon. Pour avoir réconciliation, il faut avoir le vrai pardon. Et le pardon, on a parlé un peu de comment est-ce que Jésus a enseigné le pardon. Et cette semaine, dans la réunion des anciens, on parlait d'une autre situation et Yvon, j'ai bien mené ça, le fait que tu as sorti Matthieu chapitre 18. Et encore l'exemple de pardon. C'est quoi le vrai pardon? C'est pas juste temporaire. C'est quelque chose que on veut se faire pardonner par le Seigneur, mais il faut que nous autres, on pense plus loin que juste nous-mêmes. Il faut penser à notre relation avec d'autres. Et on a un besoin de pardon. Et évidemment, ça va nous amener une transformation, un changement dans le cœur de Joseph, un changement dans le cœur de ses frères. Et à la fin, on a vu comment ils se sont pardonnés et comment est-ce qu'ils ont réussi à vraiment transformer la vie de ces 12. Et on a vu qu'à la fin de chapitre 45, que Joseph a fait des démarches pour qu'il aille chercher son père qui le ramène avec la famille en Égypte, parce que la famine n'est pas terminée. Il reste encore 5 ans de famine, il ne veut pas que personne souffre. Et Joseph envoie des chariots, il va chercher la bénédiction du pharaon pour le faire. Et il va aller chercher sa famille, le ramener. Et on a lu ici dans le chapitre 46, comment est-ce que Jacob se prépare. Et il dit en verset 1, il partit avec tous ceux qui lui appartenaient. C'est pas juste un petit voyage de loisir. On a besoin d'un petit sac avec quoi, des pyjamas, un petit déodorant, hein? On est prêt pour y aller, hein? Non, il est allé avec tout. C'était un déménagement. Il a parti avec tous ses animaux, avec tous ses serviteurs, avec ses enfants, ses femmes. Tout le monde est venu. Il a quitté le Canaan pour déménager en Égypte, en sachant que Jacob savait que Joseph lui a dit 5 ans de souffrance. 5 ans, c'est longtemps, surtout quand tu n'as rien à manger. Alors, on peut voir comment est-ce qu'il prend. Et lorsqu'il part, il arrive à Beersheba et Dieu lui arrive dans une vision et Dieu répète la même chose qu'il lui dit depuis chapitre 27. Hein? Depuis 27, où il s'est enfui de la maison parce que son frère voulait lui tuer. Et il dort sur une roche, et puis il dort sur la roche, et puis il pense à cet escalier, cette échelle qui monte au ciel, et Dieu lui dit quoi? Je vais être avec toi. Je vais être avec toi. Et il répète à plusieurs reprises dans sa vie, Dieu lui dit, je vais être avec toi. Et ensuite, ici, il dit, vas-y en Égypte. Hein? On a lu ça tantôt. Je vais être avec toi. Et ce que je trouve fascinant dans toute la vision qu'il a, il y a la dernière chose qui est écrite, il dit que Joseph fermera tes yeux. Quand est-ce que quelqu'un va fermer mes yeux? Moi, je suis capable de fermer mes propres yeux. Quand on est mort, hein? C'est l'image de la mort. Et quand on meurt, on ferme les yeux, puis c'est fini. C'est la vie ici est terminée. Alors, il dit, tu vas y aller en Égypte et c'est ton fils préféré qui va t'enterrer. C'est ton fils préféré qui va s'occuper de toi. Et alors, Jacob devra descendre en Égypte en paix, sans souci, sans inquiétude. Et ça lui donne une bénédiction de savoir que l'Éternel était avec lui. Et son fils va être là aussi. Ça va être spécial. Dans verset 5 de chapitre 46, continue avec une généalogie. Alors, d'habitude, moi, dans ma lecture, je ne sais pas vous autres, moi, j'ai une tendance à sauter par-dessus les généalogies. Il y en a tellement dans les Écritures, et il me semble que ça prend beaucoup de temps à lire tous les noms qu'on n'est pas capable de prononcer. Hein? Mais il a une liste ici, puis cette liste est très importante. C'est une liste de tous ceux qui ont descendu en Égypte avec Jacob. Tous les membres de sa famille, ses fils, ses filles, ses petits-fils, sont tous énoncés dans cette liste-là. Et ça arrive à un chiffre qui dit la famille de Jacob représente 70 personnes pour rentrer en Égypte. Et je peux imaginer Moïse qui explique ça aux enfants d'Israël dans le désert, puis eux autres ont dit 70, maintenant on est quoi? Plus que 2 millions? On est nombreux. Alors quelque chose s'est passé entre le moment où que Jacob a descendu en Égypte et aujourd'hui, lorsque eux autres se sont libérés d'Égypte, ils sont partis. Alors on a cette notion ici qui est toute une histoire. Now, les Hébreux, ils ont depuis Abraham, ils ont une importance et on le revoit constamment dans les Écritures. Les fameuses généalogies sont là pour, en fin de compte, faire le suivi. Souvent, on se pose la question, comment est-ce que moi je suis arrivé comme étant le deuxième fils de Marcel, Marcel qui était l'aîné de Ovila? Comment ça se fait qu'on a cette histoire et on peut le suivre? Mon grand-père a pris l'énergie de chercher et rechercher toutes ces areas. Il est retourné jusqu'à les Côtes Noires qui sont arrivées de France dans les années 1760. Et je trouve ça fascinant qu'il a fait toute cette recherche-là. Et le plaisir de mon grand-père, c'est de dire que les Côtes-Noires, c'était des gens bénis par l'Église catholique. Ils étaient reconnus pour chercher les hérétiques puis les amener devant les évêques. Et il dit, ils devaient retourner dans leur tombeau maintenant parce qu'on est tellement rempli de protestants et de croyants. Mais je trouve ça fascinant de voir l'histoire. Mais les Hébreux, pour eux autres, c'était sacré. Jusqu'à l'an 70, ils maintenaient dans le temple une histoire de chaque personne, de chaque famille. Ils savaient de qui ça venait, de quelle tribu. Tout était suivi. Parce que pour eux autres, c'était une fierté, mais c'était important de savoir qui nous sommes, hein? De qui on vient. Et eux autres, il y avait justement cette tendance à garder justement cette généalogie. Et entre chapitre 46 et chapitre 50, il y a deux généalogies qui ressortent. Et à chaque fois, je trouve ça fascinant comment l'auteur remet l'emphase dessus. Et je suis sûr que Moïse le disait aux enfants en Israël pour leur attirer leur attention, à savoir, vous venez de quelle famille, de quelle façon. Et c'est devenu un sujet important à travers l'histoire. Now, à verset 28 de chapitre 46, Jacob a envoyé Juda d'avance. Tu sais, déménager une gang comme ça, 70 membres de famille, plus les serviteurs, plus les servants, et plus les animaux et tout leur stock, c'est tout un déménagement, ça va pas vite. Mais il a fait un certain bout de chemin, il envoie Judas d'avance pour aller chercher Joseph, et Joseph est tellement content de savoir qu'ils sont en route, lui il s'organise, il s'en va les rencontrer, et il tombe sur le cou de son père. Et il pleure. Et c'est fantastique de voir cette réconciliation, cette famille qui devient unie, de voir le père avec son fils retourner ensemble. Et il y a quelque chose qui est caché dans ce passage que je trouve fascinant. Joseph, un homme intelligent, on le sait très bien par tout ce qui s'est passé, c'est un homme qui sait comment ça marche. Dans un sens, en anglais, on dit street smart. Il a vraiment la connaissance de la culture, connaissance de la rue. Il sait comment ça marche, les choses. Et ils ne sont pas encore rendus en Égypte. Puis déjà, il prépare ses frères et son père avec des avertissements. Et les avertissements, moi, je trouve fascinants. Parce que, évidemment, Joseph veut protéger sa famille. Il veut vraiment s'assurer que tout va aller bien. Alors, il leur avertit que quand ils vont arriver en Égypte, Pharaon, son patron, va vouloir les rencontrer. Il dit, quand tu vas les rencontrer, tu vas te présenter et tu vas simplement t'identifier comme quoi? Comme berger. Il donne cet avertissement. Si on regarde verset 30, C'est-tu 33? Enfin, 34, oui. Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il vient de rencontrer son père, ce moment joyeux, puis là, il parle d'être un berger, on va l'avouer, puis on sait que ça va déplaire aux Égyptiens. Et on a parlé un peu de ça hier, la semaine passée, et on a parlé un peu du fait que d'être hébreu et d'être égyptien, ça se colle pas. Et c'est très simple, hein? Bien.
Sauf que si la théorie selon laquelle la dynastie en Égypte était les Xos à ce moment-là, ça,
oui.
c'est des bergers,
yeah.
Qui ont fait la conquête de l'Égypte.
Mm-hmm.
Donc le pharaon pouvait être un peu de la même famille.
Ou de la même métier.
Ouais.
Et tu as raison, et on voit cette issue. Mais de la part des Égyptiens, ça peut aussi même alimenter leur haine envers les bergers. Ils sont venus, ils nous ont conquéris, on est sujet à eux à cette heure. Ah, mais tu peux voir un peu où est-ce qu'il y a un problème pour les Hébreux qui vont venir en Égypte, qui vont habiter en Égypte. Et on voit très rapidement que Joseph essaie de mettre des choses claires, mais il y a une bénédiction qui est trouvée là-dedans. Parce que Pharaon va leur donner un terrain qui est vraiment propice pour les animaux. Il va même leur allouer ses propres animaux en disant, veux-tu t'en occuper pour moi? Et dans le sens que lui a confiance en les bergers qui ont du succès.
Oui, et de plus, Joseph promet de pourvoir à tous leurs besoins, contrairement aux autres Égyptiens.
Yes, on va voir ça dans le chapitre 48, 49.
Ça explique ouais. Beaucoup d'autres choses, en tout cas,
On va regarder ça rapidement. Mais est-ce que vous comprenez, Joseph s'occupe de ses frères, il s'occupe des bergers, Pharaon semble être très favorable, okay? Et puis ça c'est important. Mais de l'autre côté, il va voir un écart entre les Égyptiens et les Hébreux. Les Hébreux vont être pour les Égyptiens comme une base classe de la société. C'est juste des bergers, c'est juste des gens qui s'occupent des animaux. Pour un Égyptien, ça c'était un préjugé. Et Joseph va se servir de ce préjugé-là. Et moi, je vais aller plus loin. Je pense que Dieu se sert de ce préjugé pour les garder à l'écart, pour les protéger. Les préjugés contre les Hébreux de la part des Égyptiens, ça va protéger les Hébreux dans certains domaines. Et on l'a déjà vu dans les passages précédents. Dans deux semaines, je vais revenir, puis on va en parler encore plus en profondeur. Mais l'idée, c'est que les Hébreux dans le pays Canaan sont portés à prendre des épouses où? Dans le pays, parmi les Canaans, un peuple idolâtre, un peuple qui a toutes sortes de méchancetés. Et l'influence, et ça, j'en parle, je sais que ça a l'air chauviniste de ma part, mais j'en parle un peu. Souvent, quelqu'un va me parler d'une telle personne qui fait une telle chose et je vais simplement poser la question, c'est quoi l'opinion de sa femme? Souvent, on ne réalise pas l'influence qu'une femme a sur nous. Un jeune va venir souvent me poser la question, je voudrais me marier, qui est-ce que je devrais chercher? Et la réponse instantanée de ma bouche, c'est trouve-toi une personne qui aime le Seigneur plus que toi. Cherche quelqu'un qui va te pousser, qui va t'encourager à chercher la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est tenté à chercher quoi? Notre propre volonté. Et d'avoir une influence positive, c'est tellement mieux qu'une influence négative. Il y a des gens, moi je connais, dans leur foyer, ce n'est que de la chicane. Et je me dis, d'où vient cette chicane? Mais ça vient de mari et femme, ils ne s'entendent pas. Et l'influence est tellement négative. Et devine quelle sorte d'enfant ça produit. Ça prend des enfants qui chicanent. Et on voit souvent ça. Ma mère m'a raconté, professeur d'école, comment est-ce qu'elle avait un petit garçon dans sa classe qui était extrêmement désobéissant. Vraiment difficile à travailler avec. Et finalement, elle a parlé au directeur de l'école. Ils ont appelé les parents. Ils ont fait une réunion. Puis quand elle a rencontré les parents, Elle me dit, après, elle dit, j'ai tout compris. Pourquoi l'enfant est même? Je dis, les parents, les autres sont tellement désagréables. Pauvre enfant, élevé dans un foyer de même. Il est rebelle, c'est sûr, certain. L'enfant a besoin d'affection. L'enfant a besoin de quelqu'un qui va s'occuper de lui. Il est tellement insécure. Il va être rebelle toute sa vie, ce pauvre petit garçon-là. L'influence, tellement important. Dieu a mis à part les Hébreux dans une partie d'Égypte, loin des Égyptiens. Il y a un écart. Il n'y a pas d'intérêt à mêler les deux peuples. Il n'y a pas un intérêt. Pourquoi? Parce que les autres sont inférieurs. On ne veut rien savoir d'eux autres. Et pour les Hébreux, ils vont dire quoi? Tant pis. Et c'est, on voit cette situation tellement importante. La culture égyptienne, c'était la culture la plus avancée à ce moment-là, dans le temps, et pourtant, c'était probablement celle qui était la plus pourrie aussi, en termes de tout ça. Et Joseph n'est pas nouf. Il a vécu là depuis quoi? Presque 20 ans. Il sait très bien qu'est-ce que c'est. Il sait comment est-ce que c'est important de protéger sa famille des influences négatives de la part des Égyptiens. Alors, chapitre 47, verset 1, on arrive avec Pharaon qui accueille Jacob et ses fils. Devine qu'est-ce qu'il va poser comme question. Qu'est-ce que vous avez fait comme métier? Et les autres, ils vont répondre bien comme faux. Nous sommes des bergers comme nos pères, hein, et on s'occupe des animaux. Jacob va bénir Pharaon de l'avoir accueilli, une expression de gratitude. Pharaon veut savoir quel âge qu'il a. Moi, je trouve ça tellement fascinant. Jacob a maintenant 130 ans. 130 ans. On voit ça dans chapitre 47. Et Pharaon, il va traiter Jacob et ses fils bien. Vous pouvez avoir ce terrain-là, et c'est le terrain que Joseph avait déjà préparé. Tu peux voir un peu de connivence qui arrive entre Pharaon et Joseph. C'est vraiment bien. Et la famine va continuer dans le pays. Alors, chapitre 47, verset 13 jusqu'à 26, on voit comment est-ce que la famine continue en Égypte. Oui, les Hébreux sont dans la partie du pays, le terrain Goshen, qui s'appelle, et on les a mis de côté, mais les autres Égyptiens, ils ont faim. Et qu'est-ce qu'ils font, eux autres? C'est qu'ils ont tout mangé leur nourriture qu'ils ont mis en réserve. Mais Joseph en a collecté beaucoup. Et maintenant, ils arrivent à Joseph, ils disent, « Nourris-nous, parce que d'autres, on n'a pas rien. » Et ils vendent la nourriture, le grain, aux Égyptiens. Et évidemment, après qu'il n'y a plus d'argent et que la nourriture est toute passée, ils reviennent une deuxième fois en disant, « On n'a rien d'autre. » Et Joseph a dit, « Ben, vends-moi tes troupeaux, vends-moi tes animaux. » Alors, il ramasse tout ça pour Pharaon, et il prend ça, et ça va très bien, il mange, et puis ensuite, ben, la nourriture est tout prise, et qu'est-ce qu'on va faire? Ils reviennent, on n'a plus rien à t'offrir. Et Joseph va prendre quoi? Leur terre. Il va prendre leur terre, il va devenir le propriétaire de tous les terrains en Égypte, sauf les terrains qui appartiennent aux prêtres, simplement parce que les prêtres avaient une allocation gouvernementale. Et eux autres gardaient leur terre.
Il prend aussi les Égyptiens en esclavage.
Et ensuite, il va prendre les Égyptiens en esclavage. Et quand je dis esclavage, c'est un drôle d'esclavage. Parce que ce qu'il va dire, il dit, maintenant que tu vas travailler dans le champ, on va vous fournir la semence, et tu vas avoir une récolte. Quand tu as une récolte, 20% revient à Pharaon. Et vous pouvez garder 80% pour vos enfants, pour votre nourriture, pour votre semence pour l'année prochaine. Alors, le système ressemble énormément à notre système de taxes qu'on a aujourd'hui, n'est-ce pas? Combien d'argent est-ce que tu as fait cette année? Bien, envoie-moi-en, tu sais. C'est un peu la notion.
Bien, ils sont encore
en famine,
alors la semence sert à quoi réellement?
La semence sert à la fin. Parce qu'évidemment, à travers toutes ces différents efforts de les nourrir, on arrive de plus en plus à faire le fin de 5 ans. Mais son idée, c'est que tu es mon esclave, je vais m'occuper de toi, mais tu vas travailler sur les terres et tu vas rapporter la récolte pour Pharaon à 20%. So, yeah, justement, ça arrive avec le temps. Justement, la semence va servir à la fin, lorsqu'on arrive à la fin de la famine. Now, Jacob va continuer à vivre un autre 17 ans en Égypte. Et Dieu va lui bénir, lui et ses fils. Pendant que les Égyptiens sont en train de crever, Joseph, on a dit tantôt, s'occupe d'eux autres. Joseph va s'occuper, ils ont besoin de rien. Et il grandit, leur nombre grandit. Et ils vont avoir un succès avec les animaux. Mais verset 27, Jacob va appeler Joseph. Verset 27 de chapitre 47, il va l'appeler et il va vouloir lui bénir. Il va bénir lui et ses fils. Il y a tout un scénario qui se passe en passant dans la bénédiction. Je trouve ça un peu spécial. Il va bénir ses fils et chapitre 48, il va inverser la bénédiction. Et Joseph a dit, non. Il va dire, Ephraim, c'est le plus jeune. Il dit, non, c'est pas, je sais que c'est le plus jeune, mais c'est lui que je vais bénir. Il va bénir Manassé, mais il va bénir Ephraim. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est peut-être Jacob qui pensait simplement à cette propre bénédiction que lui a eue lorsqu'il est né. Il est né le deuxième, mais c'est lui qui était digne de toutes les bénédictions, même avec ses simagrées qu'il a faites avec son frère, vendre son droit d'aînesse pour un simple bol de ragoût. Hein? Et puis ensuite, comment est-ce qu'il a volé la bénédiction de son frère. Alors peut-être c'est un rappel à ceci. Lisant les commentaires, il y a plein de théories. Il y a très bien, très peu de connaissances, mais c'est Jacob qui a décidé ça. Mais il va faire une demande à Joseph, et c'est important. La demande qu'il va faire à Joseph, c'est une demande assez importante et je dirais même dispendieuse. Il va demander que Joseph va jurer qu'il va l'enterrer avec sa famille en Canaan. Abraham avait acheté une terre avec une caverne, et dans la caverne, il a enterré Sarah. Et ensuite, on a enterré Abraham là-dedans, et Isaac a enterré Rebecca là-dedans. Et on a enterré Isaac dans cette caverne-là. Et Jacob veut être enterré là. Il a déjà enterré Léa. Léa est déjà décédée. Et on a toute cette notion que pour Jacob, il veut être enterré avec la famille. Alors, Joseph se met d'accord. Il va le faire. Et c'est une histoire qui est quand même tordue à travers ces chapitres-là. Un de chapitre 49, Jacob va appeler tous ses 12 fils. Il va les amener à côté de son lit. Et il va, littéralement, il va bénir chacun de ses fils. Et en lisant le chapitre, on découvre qu'il y a des bénédictions, mais aussi des malédictions. Et il y a des jugements, littéralement, contre ses fils. Et c'est important pour nous, parce que je peux te dire tout de suite, moi, quand j'ai su l'histoire de la famille, j'ai dit, Ruben, c'est le premier, c'est lui qui va avoir l'héritage, c'est lui qui va prendre le chef de la famille, c'est normal que c'est l'aîné, et j'ai eu pensé la même chose. Mais non. Ici, on voit dans ce récit comment est-ce que c'est Judas qui reçoit. Le quatrième fils qui reçoit tout l'honneur. Et on se pose la question, et nous, on sait très bien que de Judas va venir qui? David. Et de David va venir qui? Jésus. Alors, c'est quand même important dans la lignée, dans l'histoire, dans le plan de l'Éternel, que Judas soit mis en prominence. Et ce qui est fascinant dans le chapitre 49, c'est comme si Jacob a une mémoire très, très vive. Il sait très bien que Ruben est allé coucher avec sa concubine, et à cause de ça, il l'enlève littéralement de les bénédictions. Et il parle de Simeon et de Lévi, et souvenez qu'est-ce qu'ils ont fait eux autres, comment est-ce qu'ils ont détruit une ville au complet à cause de le prince qui a violé leur sœur. Et eux autres, ils se pensaient très justifiés. Et Jacob n'était pas content. Jacob se souvient de ces choses-là. Il les enlève littéralement des bénédictions. Et il descend sur Juda. Judas, ou ce qu'on penserait que Judas qui a vendu son frère en esclavage, on penserait bien que lui aussi, on va lui prendre une débâcle. Mais non, Judas reçoit tout l'honneur. Et on va parler un peu plus de Judas dans les semaines à venir, parce que c'est un nom important à se souvenir à travers l'histoire. Le nom Judas, en passant, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire louange. Parce que quand Léa l'a enfanté, elle dit, je loue Dieu. Dieu m'a donné un quatrième fils. Et au lieu de s'inquiéter de qu'est-ce que Jacob va penser, elle semble être préoccupée par ce que Dieu pense. Et c'est fascinant de voir que son nom veut dire louange et que son père va lui donner louange. Dans cette chapitre, on lit comment est-ce qu'il appelle Jacob le lion et comment est-ce qu'il donne toutes les caractéristiques d'un lion et comment est-ce qu'on s'occupe de la famille, comment est-ce qu'on est fort, comment est-ce qu'on est vaillant. De Judas va venir tous les guerriers qui vont défendre Israël. C'est la façon que Jacob va parler de lui dans ce chapitre-là. Et ce que je trouve encore touchant dans la fin de chapitre 49, on a une simple expression qui nous dit Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils. Il retirait ses pieds dans le lit. Il expirait et il fut recueilli auprès de son peuple. Il semble que Jacob a donné toutes les instructions, et il prend ses pieds, il met ses pieds dans le lit, puis il est mort. C'est comme s'il a cédé sa vie. Et on voit comment est-ce que Jacob est décédé à l'âge de 147 ans. Jacob va mourir.
Il est mort très vieux.
Il est mort très vieux, justement. Mais chapitre 50 commence avec Joseph qui tombe sur son père. Et il pleure sous son père parce que son père est parti. Et lui et ses frères organisent une énorme célébration, une funéraille où ce qu'il amène le corps de Jacob pour l'enterrer dans cette caverne en Canaan. Il s'en va l'amener. C'est tout un événement. Toute la famille sont partis avec. C'est vraiment un entourage. Les premiers ministres d'Égypte s'en viennent aussi. C'est vraiment comme quelqu'un important qui est décédé et on traite avec un honneur incroyable. On va l'enterrer. Et ça, c'est les premiers 14 versets de chapitre 50. Mais là, on arrive à chapitre 50, verset 15. Et je voulais passer un peu plus de temps là-dessus.
Oui, c'est juste le verset 1. Là, c'est la première fois qu'on l'appelle Israël. Hein? On change son nom.
On a changé son nom auparavant, mais c'est là où est-ce qu'on commence à parler de lui comme étant Israël. Yeah. On le voit ici dans ce passage.
Donc, l'épisode de la lutte nocturne de Jacob, c'est là qu'il a été appelé Israël.
Yeah. Dieu dit, je vais t'appeler Israël.
Parce qu'il va lutter contre Dieu et les hommes.
Et moi, j'ai l'impression qu'il parle d'Israël avec une promesse sur le futur, mais à chaque fois qu'on parle de lui comme Jacob, c'est comme on regarde un peu Jacob, le quoi? Le tricheur. Hein? Yeah. Et il y a une étude à faire là-dedans, si vous avez le temps de comparer l'utilisation des deux.
Je pense que Israël, c'est un surnom. Comme moi, je m'appelle Charles, je m'appelle Charles, mais je reste le même.
Yeah.
Alors, c'est un surnom pour dire que ça va être une grande nation.
Et ça donne l'image de futur de cette famille.
Je pense que quand il va comparaître devant Dieu pour savoir s'il est dans le livre de vie, après je suis d'accord sur son livre, dans le livre de vie. Quand on lit les noms en hébreu, on voit que c'est en général des surnoms. C'est la règle, c'est pas l'exception. C'est la règle, c'est pas l'exception.
On prend
les noms qu'on donne en hébreu à des personnes.
Oui.
C'est par rapport à leur identité, c'est comme des surnoms.
Ouais.
Plus généralement, pour connaître.
Sur toi, tu vas être quoi?
Ben, c'est ça. Moi, je m'appelle Pierre, mais
tu vas être nommé Cagnon?
c'est toujours XYZ, fils de ABC.
Ah, yeah. Tellement important ça, hein? Mais quand on arrive à verset 15 de chapitre 50, moi je trouve que c'est peut-être la partie la plus intéressante dans les quatre chapitres à la fin. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, « Si Joseph nous prenne en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, alors il fit dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et de leur péché, car ils ont fait du mal. Parle-leur maintenant le péché des serviteurs de Dieu de ton père. » Ah, est-ce que Jacob a donné cette ordre-là?
Ben non.
Moïse ne nous dit pas. Peut-être qu'il l'a dit. Je suis sûr, 100%, que Jacob serait d'accord avec le sens de cette déclaration. Jacob cherche la paix dans la famille. Jacob cherche que la réconciliation soit complète. Mais on peut voir aussi les frères qui semblent avoir la crainte. Ils ont une peur. Et je vous pose des questions très simples parce que ça nous applique à nous aussi. Là. Comment est-ce que ça se peut que les frères ont ce raisonnement? Charles, qu'est-ce que tu penses?
Parce que ils pensent que leur père était comme une protection par rapport à la vengeance.
Oui, papa.
Le papa est plus de ce monde. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que notre petit frère peut nous faire parce qu'on lui a amené une vie très dure durant.
Yeah.
Il a été esclave, yeah. Il a été en prison.
Yeah.
Alors, c'est normal qu'il y ait une
crainte
pour que papa n'est plus
là. Il y a un autre élément aussi qu'il faut qu'on pense un peu. Là. Ça, c'est les frères de Joseph. Les frères, eux autres, pensent comme les frères de Joseph. Ils n'ont pas pensé ces épreuves-là que Charles vient nous décrire. Eux autres étaient en Canaan, avec papa, avec maman, avec toute la famille. Ils ont eu le succès dans leur vie, ils ont toutes sortes de bénédictions. Ils n'ont pas passé des épreuves. Eux autres pensent comme ils pensent. Est-ce que vous réalisez des fois que vous pensez comme vous pensez? Comment est-ce que ça se fait que vous êtes rendu là? Comment est-ce que vous êtes arrivé à penser comme vous pensez aujourd'hui? Les expériences de votre vie, les choses que vous avez apprises à l'école, ils nous ont dit que l'évolution, c'est une réalité. À l'école, ils nous ont enseigné toutes sortes de choses, la culture autour de nous, nous montrent que... Est-ce que c'est vrai? Nous, on a appris à raisonner avec ça. Et nous, on pense comme on pense. Les frères, ils ont peur parce qu'ils ont peur. Ils savent très bien ce qu'ils ont fait à leurs frères. Ils savent très bien la réalité. Et ils savent très bien qu'eux autres auront beaucoup de misère à pardonner quelqu'un qui les aura subi tellement de méchanceté. Alors, eux autres, ils voient la situation comme étant pénible. Eux autres, ils ont raison d'avoir peur. Et ils sont pris avec leur propre raisonnement. Et moi, j'ai l'impression qu'on est arrivé à un point, quand on parlait de réconciliation, qu'eux-mêmes, ils ne se sont jamais pardonnés eux-mêmes. Joseph les a pardonnés, on va le voir ici dans le passage. Mais on voit très bien comment est-ce que la situation dans laquelle ils sont en train de vivre, c'est quelque chose qu'eux autres, il y a quelque chose qui manque dans la réconciliation. Malgré l'acte de Joseph qui voulait tout faire pour ramener sa famille en Égypte et surtout de revoir leur père, c'est important de comprendre qu'eux autres, ils sont pris avec. Le raisonnement humain est un raisonnement, on en parle souvent de ça, c'est un raisonnement qui est déformé par le péché dans le cœur de l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Moi, je me suis convaincu des choses qui ne sont pas vraies devant l'Éternel. Et je suis obligé de demander pardon. Parce que ces choses-là, moi, je sais que c'est ma façon de penser. C'est ce qui m'a inculqué à un certain comportement. Et ce n'est pas Dieu qui a nécessairement placé ça, là. Et chaque fois qu'on lit les Écritures, on se pose la question, voici ce que Dieu pense. Est-ce que moi je pense la même chose que Dieu? C'est tellement important de réaliser que Dieu est la source de la vérité. Ce n'est pas nous. Mais nous sommes simplement des êtres sur la terre. On a expérimenté le péché. Et on a demandé, j'espère que vous avez demandé pardon à notre Seigneur pour avoir justement cette réconciliation éternelle. Alors ça, c'est une priorité. nous, nous savons que Joseph a déjà pardonné leur péché. Et ça, c'est important. Joseph avait déjà, et il est ému lorsqu'il présente leur demande. Hein. Et il pleure. Joseph leur prouve son affection. Et Joseph leur dit que tout ce qui est arrivé, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Alors les frères, verset 18, virent eux-mêmes se prosterner devant lui. Nous sommes tes serviteurs. Joseph dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Joseph, tout de suite, là, l'interrupteur, c'est plus ma pensée à moi, c'est pas mes préoccupations, c'est pas mes émotions qui sont importantes. Est-ce que je vais me mettre à la place de Dieu? Et j'ai vu souvent les gens qui vont argumenter, et je questionne sérieusement, est-ce qu'eux autres ils ont pris la position que Dieu prend, ou simplement ils ont réagi d'une façon normale pour leur raisonnement d'une personne qui est pécheur. Et il dit, verset 20, « Vous avez médité de me faire du mal. Okay? » Joseph ne prend pas le péché des frères et le balayer en dessous de le tapis. Non, non, il dit, honnêtement, je sais que tu m'as fait du mal. Il n'y a pas de problème, je le sais, tu le sais, nous savons. Et très bien, très clair. Mais il dit quoi? Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entraînerai, vous et vos familles. Et il les consola en parlant à leur cœur. Et c'est fascinant de voir comment est-ce que Joseph prend la perspective de Dieu. Il cherche une réconciliation complète. Ça fait déjà 17 ans qu'ils sont en Égypte. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'ils sont là, puis qu'ils sont bénis. Et quand même, ils ont besoin encore quoi? De se souvenir de la réconciliation que Dieu les a offert. Il parle ici de sauver la vie de plusieurs. Et je trouve ça fascinant. Nous, on pense en termes de les médias, n'est-ce pas? Nous sommes dimanche, le 30 mars 2025. Tout le monde est au courant de ça? Vos préoccupations, pour la plupart, sont au sujet de qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. On vient à l'église parce qu'aujourd'hui, c'est le jour qu'on a choisi pour adorer le Seigneur ensemble. Et on va prendre le repas du Seigneur et on va tout faire ça aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui. Et Joseph, il voit le fait qu'on a sauvé la vie d'Israël et de toute sa famille. Et on a fait ça aujourd'hui. Mais il ne pense pas plus loin que ça. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Mais nous, on sait. Nous, on a triché. On a lu les histoires à travers l'Ancien Testament. On voit Jésus qui arrive. On voit Jésus qui arrive pour offrir le salut du péché à tous ceux qui vont croire. Et on voit ça dans le Nouveau Testament. Et on voit jusqu'à l'Apocalypse où ce qu'on voit, une description comment est-ce que Dieu va reprendre le contrôle sur la planète. Et on voit ces affaires-là. C'est stimulant. Et on sait très bien que Dieu a fait ceci avec Joseph et ses frères, pas juste pour eux autres au moment, mais aussi pour le futur. Protéger les Hébreux. Et c'est pour ça que j'ai parlé tantôt de ces préjugés égyptiens. Pourquoi? Parce que si les... Ça, c'est dans les commentaires, OK? La théorie, c'est que si Israël avait resté en Canaan, les fils auraient marié les filles canadiennes, ils auraient eu des pratiques idolâtres, ils auraient eu un paquet de problèmes dans la famille, à un point que le péché du pays serait devenu leur péché. Et le fait qu'on les a déménagés en Égypte pour rester là 400 ans, pour former un peuple à multiples millions de personnes, et de savoir que ces personnes-là sont protégées du péché simplement à cause des préjugés des Égyptiens, c'est terrible. Le terrible, c'est que Dieu a fait ça pour une raison, et la raison, c'est de les sauver, oui, mais aussi pour sauver le peuple et le futur. Et on voit très bien cela. Moi, je pense des fois que Dieu sert de nos péchés pour nous former, puis nous protéger de d'autres choses. 40 ans dans le désert, qu'est-ce que ça fait aux Hébreux dans le désert? 40 ans. Mais ils ont eu le tabernacle, ils ont eu toutes les pratiques religieuses, toutes les lois sont données, ils ont eu une chance de quoi? De toutes les assimiler dans la famille. Ils ont pu le comprendre et de mettre en marche une vie qui est plus en ligne avec ce que Dieu veut que les gens autour d'eux autres dans les différents pays. On voit très bien que Dieu travaille dans le cœur des gens. Et à travers l'histoire, on voit comment est-ce que Dieu organise les événements pour en arriver à dire, un jour, il va avoir un petit cat noir qui va donner sa vie au Seigneur et qu'il va élever des enfants avec la crainte de l'Éternel. C'est Dieu qui organise les affaires dans vos vies, dans ma vie. Et ça, là, c'était impressionnant de voir comment est-ce que cette réconciliation a donné un fruit. Now, verset 25 de chapitre 50 termine Genèse et il nous dit que Jésus fit jurer à des fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous fera remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut à l'âge de 110 ans. Pas aussi vieux, right, Charles? Non. On l'embauma, on le mettait dans un cercueil. Et on sait très bien que quand les enfants d'Israël entendent cette histoire-là, et Moïse est en train de leur expliquer, eux autres regardent juste un petit peu à gauche, ou peut-être un peu à droite, puis ils voient le cercueil qui amène avec eux autres. Parce que, justement, ils ont parti d'Égypte avec les eaux de Joseph pour l'enterrer dans le pays de Canaan lorsqu'ils vont arriver. Alors, justement, on a cette fin d'histoire qui nous montre la clôture, si tu veux, comment est-ce que Joseph termine sa vie avec cette simple demande, « Moi aussi, je voudrais être avec la famille. »
C'est qui a amené le corps de Joseph? Parce que si Joseph est mort à 110 ans, ses autres frères sont morts avant.
Oui, et ce n'est pas ses frères, ça va être les descendants. Et justement, 400 ans plus tard, c'est les descendants, les 12 tribus, qui ont sorti d'Égypte. On n'a qu'à lire Exode. Et on découvre qu'ils ont amené avec eux autres les eaux de Joseph pour l'enterrer. C'est, moi, je trouve ça fascinant, ce passage, et je sais que j'ai passé rapidement là-dessus. Je voulais vous donner un survol. On n'est pas terminé. On a encore la semaine prochaine, et aussi j'en ai un peu plus à vous amener la semaine suivante. Mais on donne une image ici. Genèse, c'est vraiment, si vous voulez, le commencement de comment est-ce que le monde a commencé, mais aussi comment est-ce que Dieu commence à travailler dans la vie des gens, à travers la vie de Noé, à travers Abraham, à travers Isaac et Jacob, et finalement Joseph et ses frères. Pour moi, c'est un encouragement, et j'aimerais ça simplement terminer avec un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier le fait que tu nous as amenés ici. Et que nous, comme frères et sœurs ensemble, on peut te donner gloire, te louer pour tout ce que tu as fait dans nos vies. On te remercie pour le fait que tu as envoyé ton Fils payer nos péchés. Et nous, on peut voir, Seigneur, que tu avais prévu ça et que tu l'as organisé, tu l'as structuré. Et tout arrive pour une raison qui nous échappe parfois, mais que toi, tu as en tête un plan merveilleux. On te remercie pour tous les détails, on te remercie pour la révélation qu'on a, mais aussi qu'on aime l'espérance que tu nous donnes pour le futur. On demande, Seigneur, que tu puisses nous guider, prépare nos cœurs pour l'adoration qui vient, et que ce soit acceptable à toi, ce louange, le chant, cantique, les prières et l'enseignement, Seigneur, que ce soit pour toi, et un doux parfum. On demande ces choses par le nom de Jésus. Amen.